Les années 30. L'expression évoque la grande crise, le nazisme, le début de la Deuxième Guerre mondiale avec ses camps de la mort, Hiroshima et Nagasaki. Comme l'écrivit Victor Serge en 1939, il était minuit dans le siècle. Mais est-ce que c'est tout ce que nous devons retenir aujourd'hui des années 30 ? Elles furent aussi des années d'explosion sociale qui ouvrirent la possibilité d'une toute autre évolution de la société. La lutte entre les deux classes fondamentales de la société, celle des travailleurs et celle des capitalistes, pouvait déboucher sur un affrontement décisif. En France, la grève générale de mai-juin 1936, avec ses milliers d'entreprises occupées, fut un véritable tremblement de terre. Un ouvrier de la fonderie de Fives, à Lille, a raconté comment avait démarré l'occupation de son usine. Le 2 juin, donc deux jours avant la nomination du gouvernement Blum, des travailleurs se mettent en grève. À leur passage dans les ateliers, tout le monde s'arrête avec eux. Ils forment une délégation et apportent au directeur un cahier de revendications. Et là, je le cite. Le directeur prend notre cahier et nous dit, en nous regardant dans les yeux, « Voilà ce que j'en fais. » Il le chiffonne et il le met dans la poubelle. « Maintenant, partez !» Nous sommes repartis sans un mot, rendre compte aux travailleurs. Et puis on a dit, personne ne sortira. L'occupation commençait. Le mouvement de mai-juin prit tout le monde de court. Il prit le patronat de court, qui, comme ce directeur, avait fait de chaque usine une petite dictature, en particulier dans les années qui suivirent la crise des années 30. Il prit les organisations ouvrières de cour, la CGT, la SFIO, le PC, qui n'espéraient qu'une chose, que personne ne vienne perturber l'entrée en fonction du futur gouvernement du Front populaire. Les travailleurs se joignirent à la grève, souvent, avant même d'avoir établi des revendications. Partout, les grévistes, la quasi-totalité du personnel, occupaient leurs entreprises. La grève allait d'une entreprise à l'autre. Elle était dans l'air. Elle gagna toute la métallurgie parisienne en un jour ou deux, puis s'étendit à toute la France, à l'ensemble des secteurs. Les assurances, les grands magasins, l'hôtellerie-restauration, les ouvrières de la haute couture. Le jour où les coiffeurs entrent en grève à Paris, les mariniers mettent leur péniche en travers de l'Oise pour bloquer le passage. Un ouvrier socialiste qui travaillait dans une usine de matériel électrique, écrit dans une lettre, je le cite, « Ce qui pouvait nous animer, on ne peut le comprendre que si l'on a vécu de 1920 à 1935 dans les usines de la métallurgie, où n'importe quel petit chef se croyait alors le maître et il fallait s'incliner devant lui. » Fin de la citation. Les classes dirigeantes et les autorités étaient désarçonnées. Duchemin, chef de la CGPF, le MEDEF de l'époque, rapporta la réaction de Léon Blum au lendemain de la nomination de son gouvernement. Et je cite Duchemin. À ses yeux, le point particulièrement grave de la situation présente résidait dans l'impossibilité de savoir d'où venait le mouvement ouvrier et où il allait. Pour Béguin, l'industriel du sucre, je le cite aussi, le dimanche, on dormait sur ses deux oreilles. Le lundi matin, on se réveillait et c'était la révolution. Quelques jours plus tard, Trotsky écrivait « Ce ne sont pas des grèves corporatives, ce ne sont même pas des grèves. C'est la grève. C'est le rassemblement au grand jour des opprimés contre les oppresseurs. C'est le début classique de la révolution. » Et le mouvement de 1936 en France ne fut pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Insurrection ouvrière à Vienne, usine occupée dans tous les États-Unis, révolution en Espagne, révolte dans les colonies. Voilà la facette des années 30 que tous les courants politiques bourgeois voudraient nous voir oublier. Pour prendre la mesure des événements qui se déroulèrent en France et en saisir les enjeux, il faut avoir en tête leur contexte international, mais aussi revenir quelques années en arrière. à cette Première Guerre mondiale et à la vague révolutionnaire qui lui succéda. À l'époque, ce n'était pas de l'histoire, c'était hier. Au début du XXe siècle, les contradictions du capitalisme étaient devenues si profondes qu'elles avaient éclaté en une guerre mondiale au cours de laquelle la bourgeoisie avait déjà failli perdre le pouvoir. Le besoin vital de trouver de nouveaux marchés pour écouler une production toujours plus grande, la course au contrôle des matières premières, la nécessité de placer les capitaux qui s'accumulaient sans cesse, tout cela avait amené le capitalisme à son stade impérialiste. Les principales bourgeoisies de la fin du XIXe siècle avaient conquis l'essentiel de la planète. Pendant que les bourgeoisies françaises et anglaises se taillaient des empires à piller et à exploiter, les industries des États-Unis et d'Allemagne amorçaient leur développement. Elles se formaient sur une base plus moderne et leurs besoins d'expansion n'étaient pas moindres que celles des capitalistes français et anglais. Pour y pourvoir, la bourgeoisie américaine avait à sa disposition un marché intérieur de la taille d'un continent et pouvait prendre le contrôle de l'Amérique latine et centrale. La bourgeoisie allemande, au contraire, se trouvait sans colonie, coincée entre la France et le Royaume-Uni. La terre devenait trop étroite pour les bourgeoisies les plus puissantes. C'est par la guerre qu'elles tentèrent de régler leurs comptes, entraînant l'Autriche, l'Italie, l'Empire russe, l'Empire ottoman et les peuples colonisés dans le carnage. Les souffrances inouïes vécues dans les tranchées pour déterminer quel trust dominerait le monde, le rationnement, les fortunes des profiteurs de guerre, l'hypocrisie patriotique, la Première Guerre mondiale, c'était la lutte de classe poussée à son paroxysme. Elle déboucha sur le premier assaut de la classe ouvrière contre la classe capitaliste à l'échelle internationale. L'espoir d'en finir avec la guerre vint de Russie. En février 1917, des ouvrières du textile de Petrograd se mirent en grève contre le manque de pain. Elles provoquèrent un soulèvement ouvrier qui s'étendit dans les plus grandes villes du pays. Par entreprise, par régiment, grévistes et soldats mutinés élurent les soviets d'ouvriers et soldats, reliés les uns aux autres. Le tsar abdiqua en faveur d'un gouvernement provisoire qui poursuivit la guerre. Mais face à lui, un pouvoir des travailleurs était en train de naître. 9 mois plus tard, la révolution d'octobre, menée par le parti bolchevique, renversa le gouvernement provisoire et remit le pouvoir aux soviets. Les premières décisions du pouvoir révolutionnaire appelèrent les paysans à prendre les terres des grands propriétaires et les ouvriers à contrôler les usines. Une trêve immédiate fut déclarée sur le front, suscitant un énorme enthousiasme chez les soldats et leur rupture définitive avec l'état-major tsariste. L'inquiétude gagna l'état-major allemand au cours de l'automne 1918. Son chef, Ludendorff, écrit dans ses mémoires, et je le cite, « Des faits qu'on n'eût pas cru possibles dans l'armée allemande se produisaient. Une division fraîche, montant courageusement en ligne, fut accueillie par les troupes en retraite au cri de « Briseurs de grève, ils en ont pas assez de la guerre !» Et le 3 novembre, la flotte se mutina dans le port de Kiel. La révolte se répandit dans le pays comme une traînée de poudre. Suivant l'exemple russe, les travailleurs élisaient des conseils d'ouvriers et de soldats. L'empereur abdiqua et la puissante bourgeoisie allemande sentit en quelques semaines le sol se dérober sous ses pieds. Il n'y avait pas de réseaux sociaux numériques, mais la lueur d'espoir émise par la révolution russe avait traversé les frontières. Cependant, il n'existait pas en Allemagne d'équivalent au parti bolchevique. Le parti socialiste, le SPD, rallié à la guerre, restait très puissant et organisé. Le parti communiste, le KPD, créé autour de militants qui s'étaient opposés sans compromission à la guerre, comme Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, fut fondé en pleine révolution. Pour détourner les travailleurs allemands du chemin pris par la révolution russe, les chefs du SPD s'appuyèrent sur la confiance que beaucoup avaient encore en lui. Ils se firent élire à la tête des conseils ouvriers, tout en étant nommés par la bourgeoisie à la tête du gouvernement officiel. Ils tâchaient de se mettre à la tête du mouvement pour mieux pouvoir y mettre fin. les classes dirigeantes ne perdirent pas de temps. Le SPD et l'état-major constituèrent des groupes paramilitaires, les corps francs, et les lancèrent contre les travailleurs révolutionnaires. Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht furent assassinés, puis les conseils de soldats et d'ouvriers dissous, une région après l'autre. En 1919-1920, ce fut au tour de la bourgeoisie italienne de sentir le sol trembler sous ses pieds. Au cours de ces deux années rouges, plus d'un million de paysans pauvres s'organisèrent dans les ligues rouges. Les grèves d'ouvriers agricoles succédaient aux occupations de terres. Le 1er septembre 1920, l'ensemble des usines métallurgiques était occupé et contrôlé par des conseils ouvriers élus. Porté par cette vague de lutte, le Parti socialiste italien devint un grand parti ouvrier, passant de 24 000 membres en 1918 à plus de 200 000 au cours de l'année 1920. Mais radicaux en parole, ses dirigeants restaient plus habitués au débat parlementaire qu'à la guerre de classe. Ils espéraient s'appuyer sur les mobilisations pour pouvoir prendre le pouvoir par les urnes et laisser passer la vague révolutionnaire. Doutant que le régime fût en mesure de briser les travailleurs, les classes possédantes misèrent sur les bandes fascistes de Mussolini. Anciens socialistes passaient du pacifisme au nationalisme pro-guerre avant de fonder le fascisme italien. Mussolini recrutait des anciens combattants dont la bourgeoisie n'avait plus que faire et que l'internationalisme ouvrier rebutait. Associés aux fils des propriétaires fonciers, Mussolini les jetait contre les paysans rebelles et les militants socialistes. Puis ces milices passèrent à des actions de grande ampleur contre les bastions du mouvement ouvrier. Le Parti socialiste italien ne souhaitait pas susciter une nouvelle crise révolutionnaire. Il refusa donc de s'engager dans une lutte directe, appuyée sur des milices ouvrières et paysannes, et appela à se fier à l'État démocratique. Reculant sans combat, malgré leur immense supériorité initiale, les exploités perdirent confiance, tandis que les fascistes, protégés par la police et par les juges, gagnaient de l'audience parmi les classes moyennes qui cherchaient une issue. Appelé au pouvoir en octobre 1922, Mussolini instaura une dictature qui consolida de façon durable la situation des classes possédantes italiennes. En Allemagne, après de nouveaux soubresauts révolutionnaires, la bourgeoisie allemande réussit elle aussi à stabiliser sa domination à partir de 1924. Mais elle garda, gravé dans sa mémoire, le souvenir de cette période où elle avait failli perdre le pouvoir. Les bolcheviks avaient fondé l'Internationale communiste, la Troisième Internationale, en pleine guerre civile, pour regrouper les révolutionnaires de tous les pays et permettre aux travailleurs de se battre pour le pouvoir. La Troisième Internationale dut constater le reflux de la vague révolutionnaire. Pour faire face au retour de l'emprise du réformisme dans la classe ouvrière, Lénine et Trotsky proposèrent au Parti communiste une politique qui tenait compte de ce changement de période. En prenant l'initiative de la lutte pour la défense des conditions d'existence des travailleurs face au chômage, face aux bas salaires, et en s'adressant aux autres partis ouvriers et aux syndicats réformistes, les partis communistes pourraient continuer à se lier aux masses ouvrières et contribuer à renforcer la conscience de classe. C'était la politique de front unique ouvrier. Mais ce reflux de la vague révolutionnaire toucha aussi la Russie. Ruinée par la guerre civile et par l'intervention militaire des pays impérialistes et isolée par l'écrasement des autres révolutions. Au fil de la guerre, une couche de bureaucrates s'y était formée, habituée à décider dans l'urgence et de façon autoritaire. Profitant de ce que la classe ouvrière épuisée intervenait de moins en moins dans la vie politique, ces bureaucrates se liguèrent contre ceux qui menaçaient leur position et leurs privilèges. En effet, alerté par Lénine, mort en 1924, et groupé autour de Trotsky, des militants fidèles aux idées bolcheviques et une partie de la classe ouvrière, comme de la jeunesse soviétique, avaient engagé le combat contre la bureaucratie, pour le retour de la démocratie dans le parti et de la démocratie soviétique dans le pays. Ce combat dura près de 15 ans, avant que la bureaucratie et son chef Staline, renforcés par l'absence de révolution victorieuse dans d'autres pays, ne prennent définitivement le dessus. Mais à l'extérieur, La Russie restait vue comme le pays de la révolution, haï par tous les dirigeants capitalistes. Le combat qui s'y déroulait contre les bureaucrates était peu connu et encore moins compris. Et la poussée de la bureaucratie eut des conséquences très rapides et funestes dans l'internationale communiste. De partie mondiale de la révolution ouvrière, elle se transforma en succursale de la diplomatie de l'Union soviétique et les partis communistes en pions sur son échiquier. Les staliniens rompirent avec le programme bolchevique en inventant l'idéologie du socialisme dans un seul pays et devinrent de plus en plus fermement convaincus que la révolution ouvrière devait être sacrifiée si cela permettait d'assurer à court terme leur propre survie. Au milieu des années 1920, après avoir vu sa domination menacée par la classe ouvrière, la bourgeoisie avait stabilisé sa situation à l'aide du fascisme italien et de la trahison du Parti socialiste allemand. Les capitaux américains se répandirent en Europe, particulièrement en Allemagne, entraînant un certain redémarrage économique. Mais les plus grands capitalistes avaient toujours un besoin aussi vital de s'arracher les uns aux autres les marchés, les matières premières, les travailleurs à exploiter. Les contradictions à l'origine de la Première Guerre mondiale s'étaient même aggravées, avec plus de frontières, des États plus endettés. Et cette bourgeoisie nord-américaine, dont l'immense production était confrontée à la solvabilité limitée d'une Europe appauvrie. La stabilisation de la bourgeoisie était donc toute relative. Quelques années plus tard, la crise de 1929 commençait. Et là, la question se posait à nouveau. Qui sortirait vainqueur de la crise d'un système en putréfaction ? La classe ouvrière ou la bourgeoisie ? La guerre ou la révolution ? Les États-Unis étaient devenus la principale puissance économique à la faveur de la Première Guerre mondiale. Leur industrialisation s'accéléra encore au début des années 20. Et de nouveaux secteurs se développèrent, l'automobile, la chimie, le pétrole, le caoutchouc. De grands trusts se constituaient dans tous les domaines, jusqu'au commerce, avec l'apparition des chaînes de magasins. Cela faisait longtemps que l'armée américaine n'hésitait plus à intervenir hors de ses frontières. Mais les profits et les capacités de production croissaient sans cesse, dépassant ce que pouvaient absorber ces nouvelles zones d'influence. Les capitaux qui ne trouvaient pas d'investissement assez rentable dans la production se dirigèrent vers la finance. La grande époque des trusts fut aussi celle de la création des sociétés d'investissement, qu'on appelle aujourd'hui les fonds financiers. Puis les capitalistes américains accumulaient de profits, plus l'économie qui semblait florissante devenait instable. À la fin des années 1920, les bulles spéculatives succédaient aux bulles spéculatives, mais à Wall Street, c'était l'euphorie permanente. Les courtiers faisaient crédit aux spéculateurs, les banques faisaient crédit aux courtiers, les entreprises industrielles spéculaient avec leur trésorerie, et les capitaux affluaient du monde entier. Un certain Will Payne, révélateur de cet état d'esprit, se demandait dans une revue « Quelle est la différence entre un joueur et un investisseur ?» 1929. Je vous laisse réfléchir. Et alors c'est simple. Un joueur gagne seulement parce que quelqu'un d'autre perd. Mais là où il y a investissement, tout le monde gagne. L'investisseur achète de la General Motors à $100, la vend à un autre pour 150, qui la vend à un troisième pour 200, tout le monde fait de l'argent. Voilà, c'est la magie du capitalisme. Un premier crack, un coup de semonce, survint fin mars 1929. Puis ce fut le jeudi noir, le 24 octobre. Wall Street chuta de 50% en une semaine. Les emprunteurs devenaient insolvables. Les dépôts bancaires disparaissaient en fumée. Tout le château de cartes s'effondra, entraînant le reste de l'économie avec lui. Dans les mois qui suivirent, les capitaux américains placés à l'étranger furent rapatriés pour tenter de couvrir les pertes, mais accentuant encore la propagation de la crise sur l'ensemble des marchés mondiaux. Les différentes bourgeoisies réagirent en faisant payer la crise aux travailleurs et en passant de la concurrence habituelle à une véritable guerre commerciale. 11 ans après la guerre précédente, le capitalisme entrait à nouveau en convulsion. La guerre sociale et la guerre commerciale, s'alimentant l'une l'autre, menaçaient de faire basculer la société dans une nouvelle guerre généralisée. Entre 1929 et 1932, la production industrielle recula de 50% aux États-Unis, de 45% en Allemagne, de 30% à l'échelle du monde. Les investissements étaient quasiment à l'arrêt, les ventes diminuaient, entraînant la baisse des prix et de nouvelles faillites, ce qui n'empêchait pas les entreprises de continuer à verser des dividendes aux actionnaires, même quand les profits fondaient, voire disparaissaient. Ça a été le cas, par exemple, de US Steel, de General Motors, de la Shell, du Crédit Lyonnais, de tout un tas d'entreprises. Pour sauvegarder ses profits et protéger ses capitaux, la bourgeoisie multiplia les licenciements, les jours chômés, les baisses de salaire. Les petits épargnants perdaient leurs économies, les petits patrons étaient expropriés par les banques. Aux États-Unis, des banques mirent la main sur les terres de milliers de paysans qui devinrent des émigrés de l'intérieur. En 1932, 12 millions de personnes étaient au chômage et vivaient parfois dans des camps surnommés Hooverville, du nom du président de l'époque. Au Royaume-Uni, le chômage doubla. En Allemagne, il fut multiplié par 3 ou 4. Des budgets d'austérité étaient appliqués partout, coupant les salaires des fonctionnaires et les aides aux chômeurs. C'était l'époque des marches de la faim. Parallèlement à cette guerre sociale, les bourgeoisies mobilisèrent leurs États pour mener la guerre commerciale. Chaque marché devint un pré carré à défendre ou une place forte à conquérir. Une guerre des tarifs protectionnistes fut ouverte par les USA, qui triplèrent leurs droits de douane en juin 1930. On pouvait alors lire dans l'ancêtre du quotidien Les Échos des récits qui en rappellent d'autres, plus contemporains, comme le périple du navire l'Olympique, qui filait à toute vapeur vers New York pour arriver avant le 12e coup de minuit, sous peine de voir sa cargaison de produits de luxe français taxée aux nouveaux tarifs. Je ne sais plus s'il est arrivé ou pas. À ces tarifs répondirent des mesures de rétorsion. Au Canada, en France et même au Royaume-Uni, le porte-étendard du libre-échange depuis un siècle. Le commerce mondial s'effondra entre 1929 et 1932. Les colonies devinrent encore plus des chasses gardées qui permettaient aux bourgeoisies impérialistes, quand elles en avaient, d'amortir un peu le choc de la crise. L'heure n'était pas encore au retour des affrontements militaires directs. Mais le monde du travail était sonné par la violence de la guerre sociale menée par la bourgeoisie. Et la concurrence s'était déjà muée en guerre commerciale. L'Allemagne, dont les exportations chutèrent de 60%, devint brutalement le maillon faible du système capitaliste. Endettée, étranglée par le traité de Versailles signé à la fin de la Première Guerre mondiale, la bourgeoisie allemande était privée de colonies et même d'armées susceptibles de défendre ses intérêts dans l'arène mondiale. À l'intérieur, elle était confrontée au plus puissant mouvement ouvrier hors d'Union soviétique. En 1931, près de la moitié des familles ouvrières en Allemagne étaient condamnées au chômage. Les salaires avaient baissé en moyenne d'un quart, et bien des petits patrons et des petits agriculteurs ne pouvaient plus payer leurs dettes. Même les employés étaient touchés par le chômage, et c'était nouveau. Et les enfants des classes moyennes ne trouvaient plus la place que la société leur avait promise. Groupusculaire, en 1929, le parti nazi forma les sections d'assaut, des milices, qui organisait plus de 100 000 hommes en 1930, 400 000 deux ans plus tard. Elle mobilisait les classes moyennes déchues, anciennes bases sociales du parlementarisme, en canalisant leur colère et en s'appuyant sur leur aspiration à ce que quelqu'un remette de l'ordre dans cette société qui se décomposait. Les politiciens traditionnels enchaînaient les mesures impopulaires qui ne résolvaient rien. Dissolution, gouvernement minoritaire, décrets-lois, les ordonnances d'aujourd'hui. Sous les coups de boutoir de la crise, le système politique apparaissait dans l'impasse. Les capitalistes allemands pouvaient craindre que les travailleurs, en engageant la lutte pour défendre leur peau, ne se lancent à nouveau à l'assaut d'un système en faillite. Le SPD restait la principale organisation ouvrière, regroupant 1 million d'adhérents et influençant des millions d'autres travailleurs. Comme tous les partis modérés, son influence s'érodait, mais il représentait toujours 20% des voix fin 1932. profondément liée aux institutions bourgeoises, il ne constituait pas en soi une menace pour les classes dirigeantes. Mais les millions de travailleurs qui l'entouraient pouvaient finir par être entraînés dans la lutte et influencés par le Parti communiste. Celui-ci était fort de près de 300 000 membres au début des années 1930. Sa milice, le Front Rouge, comptait environ 100 000 membres, autant que l'armée allemande. Prises ensemble, les organisations ouvrières étaient plus fortes que les troupes nazies. Pourtant, au lieu d'entraîner les travailleurs socialistes à une défense collective face aux nazis et au patronat, le KPD faisait le coup de poing contre des réunions socialistes, parfois de concert avec les nazis. Cette politique, qui peut paraître folle aujourd'hui, avait été imposée à toute l'internationale communiste par la bureaucratie soviétique. Pour dissimuler les conséquences catastrophiques de sa politique en Russie, elle mettait en avant une politique gauchiste, prétendant que la révolution était à portée de main partout, à condition d'en finir avec les partis socialistes, qualifiés de frères jumeaux des fascistes. Pendant que les deux partis ouvriers s'invectivaient, la bourgeoisie allemande n'attendit pas la révolte ouvrière. Elle l'anticipa en faisant jouer à Hitler et à ses sections d'assaut, financées par les principaux capitalistes, le rôle que jouèrent en Italie les fascistes de Mussolini. Une fois Hitler chancelier, les forces combinées des sections d'assaut et de l'État républicain détruisirent le PC, puis le SPD et les syndicats. Des dizaines de milliers de militants et de sympathisants furent ensuite envoyés dans les camps de concentration où de nombreux autres les rejoindront par la suite. La prise de pouvoir nazi représenta un tournant profond dans la situation. En écrasant la classe ouvrière, la bourgeoisie allemande s'était ouvert la voie vers le réarmement et la guerre. Mais cette défaite fut aussi un coup de tonnerre pour la classe ouvrière des autres pays et pour la jeunesse, influencée par les idéaux socialistes et communistes. Cette défaite sans combat en Allemagne et l'absence, au sein de l'internationale communiste, de toute remise en cause de la politique suivie, montra aussi que les PC, aux gardes à vous devant Staline, était mort pour la révolution. Trotsky écrivit alors, je le cite, « Le prolétariat allemand se relèvera, le stalinisme jamais. La révolution devrait passer par de nouveaux partis et la fondation d'une nouvelle internationale, la quatrième internationale. » L'année 1934 marqua, à des niveaux divers, le point de départ de la riposte ouvrière dans plusieurs pays du monde. Il n'est évidemment pas possible de s'arrêter sur chacune de ces réactions, mais elles indiquent que la remontée ouvrière de 1934-1936 en France ne fut pas une réaction isolée. En Autriche, où le gouvernement d'extrême droite avait déjà interdit depuis un an le Parti communiste, des miliciens socialistes et les habitants des quartiers ouvriers de Vienne prirent les armes le 12 février 1934 à la suite d'une attaque de leurs locaux par la police. Ils se battirent dos au mur, la direction du Parti socialiste aux abonnés absents, mais l'armée dut bombarder les quartiers rouges pour mettre fin à la rébellion. 6 mois plus tard, une autre insurrection éclata en réaction à la montée de l'extrême droite fascisante, en Espagne cette fois. Alors que toute une partie du Parti socialiste se radicalisait, ses dirigeants avaient prévenu que la bourgeoisie prenne garde, car si l'extrême droite rentre au gouvernement, le Parti socialiste déclenchera la révolution. Eh bien, quand ce moment arriva, les dirigeants socialistes s'esquivèrent. Mais les travailleurs des Asturies, regroupés derrière les mineurs, lancèrent l'insurrection, dirigée par un front unique de toutes les organisations ouvrières. Ils prirent le pouvoir à Oviedo, la capitale, et dans la plus grande partie de la province, proclamant une république ouvrière et paysanne. Il fallut 15 jours à l'armée, commandée par un certain général Franco, pour briser leur résistance. 1934 fut aussi l'année du grand réveil de la classe ouvrière des États-Unis. Les grèves d'ouvriers agricoles succédèrent aux affrontements meurtriers entre mineurs et milices patronales. En avril, des milliers d'ouvrières et d'ouvriers d'une usine automobile de Toledo, dans l'Ohio, appuyés par des chômeurs et des anciens combattants, forcèrent la garde nationale à battre en retraite après plusieurs jours de batailles rangées. En mai, les travailleurs prirent le contrôle de Minneapolis après la généralisation d'une grève du transport dirigée par un comité de grève créé par des militants trotskistes et forçant les patrons et leurs milices à capituler. Sur la côte ouest, la grève des dockers, animée par des militants du Parti communiste, aboutit au blocage de la totalité des activités portuaires de la moitié du pays. Sur la côte est, 400 000 ouvrières et ouvriers du textile firent grève. Plusieurs vagues d'occupation d'usines suivirent ensuite à Goodyear, General Motors et dans des centaines d'autres entreprises. En général victorieuse, ces luttes contraignirent le patronat à reconnaître des droits aux travailleurs, mais restèrent sur le terrain syndical. La bureaucratie syndicale et le Parti communiste préférant chercher des terrains d'entente avec le président Roosevelt, le pouvoir de la bourgeoisie ne fut pas réellement menacé. Mais ces années-là, des millions de travailleurs américains firent preuve d'une audace et d'une détermination extraordinaires. En France, les premières conséquences de la crise mondiale devinrent sensibles à partir de 1931. Des agriculteurs ne parvenaient plus à payer leurs emprunts car certains prêts agricoles avaient été divisés par deux ou trois. La production industrielle baissait. Le chômage, à peu près inexistant avant, atteignait officiellement environ 1 million de personnes, sans doute bien davantage. Les salaires horaires reculèrent de 5 à 10 %, à quoi s'ajoutait la diminution des heures travaillées. Même si, dans la métallurgie, le travail se prolongeait souvent au-delà de 48 heures par semaine. Les patrons profitaient de la crise pour faire baisser la tête aux travailleurs, en faisant la chasse aux militants, et par tout un tas de petites humiliations quotidiennes. À Renault-Billancourt, tout ouvrier soupçonné d'appartenir à un syndicat ou au Parti communiste était mis à la porte. Les vestiaires étaient fouillés à la recherche de tracts ou de journaux. Intérimaires et chômeurs faisaient la queue le matin à la porte des usines, attendant de savoir si on les prendrait ou non. Le chômage accroissait la division dans le monde du travail. Georges Lefranc, un syndicaliste CGT, écrivait, je le cite, « Le sans-travail récrimine contre, entre guillemets, ceux qui lui ôtent le pain de la bouche. Ce sont les ouvriers qui font des heures supplémentaires, ou les travailleurs étrangers, ou encore les femmes accusées de prendre les emplois des hommes. » Fin de la citation. Pour désigner des boucs émissaires, les autorités multipliaient les mesures contre les étrangers. La loi du 10 août 1932 instaura un quota de travailleurs étrangers, 5% maximum dans les entreprises publiques et dans celles qui répondaient à des marchés publics, 5%. Des quotas par secteur et zone géographique dans le privé. Elle restera en vigueur sous le Front populaire. Une autre loi obligeait les étrangers à obtenir l'accord de la préfecture pour avoir le droit de déménager dans un autre département. Tous les 6 mois, un gouvernement chassait l'autre, souvent composé des mêmes personnes et soutenu par les mêmes partis. Ils justifiaient leurs mesures d'austérité contre les travailleurs par la nécessité de rétablir la compétitivité des marchandises françaises et par la dette publique, qui était passée de 75% du PIB à 130%. Les décisions les plus impopulaires passaient par décret-loi, réduction du nombre de fonctionnaires, baisse des pensions d'anciens combattants et des salaires dans le public en 1934 et 1935. La grande bourgeoisie française disposait de son empire colonial et l'activité économique ne s'était pas encore complètement effondrée. Le petit patronat et les classes moyennes n'avaient pas encore perdu tout espoir. Mais leurs craintes grandissaient, tout comme leur exaspération vis-à-vis d'un système politique qui paraissait impuissant. Il n'existait pas de milices d'extrême droite de l'ampleur des sections d'assaut, comme en Allemagne. Mais le terreau social et politique pour leur développement était là. On les appelait les ligues. Elles avaient leur Bolloré, leur Pierre-Édouard Sterrin, des patrons qui jouaient les pionniers, tandis que les autres pensaient pouvoir encore s'en sortir avec les politiciens traditionnels. Il y avait les jeunesses patriotes, du patron des champagnes Tétinger, Solidarité française, de l'industriel de la parfumerie François Coty, qui criait au remplacement d'une prétendue race française. Il y avait aussi les monarchistes de l'Action française, antisémites, pour qui la décadence était en marche du fait de la diffusion des cultures étrangères. Les plus nombreux étaient les Croix de Feu, dirigés par le colonel Delaroque, ancien officier colonial, soutenu par le sidérurgiste Devindel. Ex-association d'anciens combattants, elle regroupait plusieurs dizaines de milliers de membres en 1934. Dénué de programmes précis, Delaroque insistait sur la nécessité d'un grand coup de balai contre les politiciens et les partis. Son journal portait la manchette « Ni blanc, ni rouge, bleu, blanc, rouge ». Et il fut à l'origine du triptyque « Travail, famille, patrie ». Au discrédit du régime politique causé par l'incapacité à juguler la crise, s'ajoutaient des scandales qui permettaient aux ligues d'incriminer le personnel politique sans mettre en cause les capitalistes. Début 1934, elles étaient lancées dans une vive agitation au sujet de l'affaire Stavisky, un escroc lié à la bonne société et à des politiciens, notamment du Parti radical, retrouvé mort par la police qui venait l'arrêter. Quand, dans ce contexte, le gouvernement radical révoqua le préfet de police de Paris, connu pour être proche des ligues, celles-ci appelèrent à une grande manifestation le 6 février au soir, à laquelle se joignit aussi, mais c'est moins connu, l'association des anciens combattants du Parti communiste. Des dizaines de milliers de manifestants convergèrent vers la place de la Concorde, dénonçant les voleurs, les juifs, la République, qu'ils appelaient la gueuse, et pour certains, tentant de rentrer dans l'Assemblée. Le bilan fut d'au moins 15 morts et 2500 blessés. Le lendemain, le gouvernement s'inclina devant l'émeute et fut remplacé par un autre plus réactionnaire, incluant le maréchal Pétain. C'était une victoire politique pour les Ligues. Pour faire face à cette situation, le mouvement ouvrier en France était bien moins puissant qu'en Allemagne. Le Parti communiste était né du ralliement de la majorité du Parti socialiste, la SFIO, à l'Internationale communiste en 1920, lors du congrès de Tours. Certains dirigeants plus réformistes que révolutionnaires avaient d'ailleurs accompagné le mouvement pour ne pas perdre leur influence sur la base du parti et sur les jeunes qui avaient été politisés par la guerre et par la révolution russe. Les réformistes étaient restés majoritaires dans la CGT, mais les révolutionnaires progressaient très rapidement. L'appareil de la CGT exclut les sections les plus radicales en 1921, et il y eut désormais, d'un côté, la CGT, dirigée par Léon Jouot et liée aux socialistes, et de l'autre, la CGTU, pour unitaire, dirigée par le PC, aux militaires également des syndicalistes révolutionnaires. La SFIO ressortit moribonde du congrès de Tours. Le PC et ses 120 000 adhérents, au contraire, allaient de l'avant malgré des conditions difficiles. Le parti mena une campagne contre l'occupation de la Ruhr, en Allemagne, par l'armée française, en janvier 1923. Le maire communiste de Noirdenais et la CGTU soutinrent la grève des sardinières, les peines sardines, durant l'hiver 1924. Le PC dénonça aussi l'intervention de l'armée française contre Abdelkrim, en 1925, au Maroc, où les insurgés avaient mis en échec l'armée espagnole. Mais, via sa mainmise sur l'Internationale communiste, la bureaucratie soviétique s'employa à sélectionner des dirigeants dociles. Thorez, par exemple, fils de mineur du Pas-de-Calais, choisi à 30 ans pour devenir le principal dirigeant du Parti communiste. C'était un moyen d'en écarter ou d'en décourager d'autres, dont nombre de ceux qui, comme Rosmer, Monat ou Loriot, avaient initié le combat pour la création du Parti communiste et la mise à l'écart des chefs réformistes. Ainsi constituée, la direction du Parti communiste se lança, à partir de 1928, dans la même politique gauchiste que le Parti communiste allemand, accusant le Parti socialiste de social-fascisme, clamant l'imminence de la révolution sans égard pour la situation réelle. Les militants du Parti communiste s'isolèrent, permettant à la SFIO de regagner une certaine assise. En 1932, le PC ne comptait plus que 25 000 adhérents. Des militants courageux, prêts à tout pour leur parti, dans l'espoir de renverser le capitalisme. Par exemple, Jules Fourier, un peintre en bâtiment qui adhéra au Parti communiste en 1927. Orphelin, il commença à travailler à 13 ans, puis fut mis sur une liste noire des patrons du bâtiment. Il dirigea ensuite des organisations de chômeurs dans la région parisienne. Il contribua à organiser des manifestations à Montmartre, où la grande bourgeoisie réveillonnait. Et je le cite, il raconte. On rentrait dans les restaurants. On lançait des tracts édités par le comité régional des chômeurs en criant « du travail ou du pain ». Au lieu de nous donner du travail ou du pain, on nous donnait des coups de matraque et des arrestations. Mais oui, j'étais content, parce que là au moins, on bouffait du bourgeois. La SFIO, tournée vers les élections et les alliances avec le Parti radical, était dirigée par des hommes comme Léon Blum, magistrat au Conseil d'État dès l'âge de 23 ans. Il avait adhéré à la SFIO en 1905, mais se mit en retrait au bout de quelques mois, la jugeant trop révolutionnaire. Jusqu'en 1914, et sa nomination comme chef de cabinet dans le gouvernement de guerre. En butte à des campagnes antisémites virulentes, il sut s'appuyer sur l'aura de victime que lui conféraient ses attaques crasseuses pour se légitimer auprès de ceux qui aspiraient à combattre les ligues d'extrême droite. La SFIO regroupait beaucoup de fonctionnaires, d'artisans, d'instituteurs, avec une implantation ouvrière dans le Nord ou le Massif central. Au début des années 1930, des milliers de jeunes qui se politisaient avec la crise rejoignaient les jeunesses socialistes, plus ouvertes et plus dynamiques que celles du Parti communiste marquées par le dogmatisme stalinien. En région parisienne, par exemple, elles passèrent de 400 militants en 1932 à 2000 en 1934. Elles revendiquaient 12 000 militants à l'échelle du pays. Nombre d'entre eux se réclamaient de la révolution et penchaient pour un front unique des partis ouvriers. Alors, quand, tout juste un an après la prise du pouvoir d'Hitler, la manifestation des Ligues du 6 février 1934 fit tomber le gouvernement, cela créa un électrochoc, bien au-delà du mouvement ouvrier organisé. Les illusions d'une partie de ceux qui se pensaient à l'abri de la menace fasciste tombaient. Les autres voyaient leurs craintes confirmées. Mais cela allait-il conduire cette fois les travailleurs à prendre l'initiative? Dans les heures qui suivirent, un premier changement d'état d'esprit eut lieu parmi une large fraction des travailleurs. Voir le gouvernement qui leur menait la vie dure capituler face aux Ligues suscitait l'indignation. Des travailleurs enrageaient d'imaginer Paris, le symbole des révolutions de 1789, de la Commune basculer vers l'extrême droite. Des manifestants se mobilisèrent à l'appel des syndicats et des partis ouvriers dans de nombreuses villes. Mais en région parisienne, les appareils étaient plus forts. Or, les directions centrales des partis restaient hostiles à l'unité d'action ouvrière. La CGT appela à faire grève et à défiler en défense des libertés publiques le 12 février 1934. Le PC répondit en appelant à une manifestation le 9 février au soir, à laquelle il convia les ouvriers socialistes, non sans accuser la SFIO de préparer l'union nationale fasciste avec les radicaux. Le PC eut son coup d'éclat et ses martyrs. Les affrontements avec les gardes mobiles firent 6 morts. Mais ce n'était pas encore une démonstration de force. Sentant monter l'envie de riposter parmi les travailleurs, le PC dut se résoudre au dernier moment à appeler lui aussi à manifester le 12 février. Et c'est ce jour-là qui resta dans les mémoires. Il y eut des cortèges dans toute la France, plusieurs millions de grévistes, une manifestation parisienne immense. Mais ce n'était pas là le plus important. À Paris, les cortèges SFIO, CGT et PC, CGTU s'étaient donné rendez-vous à des endroits distincts. Un manifestant raconta l'arrivée du cortège PC, CGTU. Les chants peu à peu s'éteignent pour cesser tout à fait en arrivant à hauteur du groupe socialiste. Les uns et les autres paraissent s'observer. Un point se dresse. En voici bientôt 10, 100, 1000, des milliers, une forêt de bras qui s'élève, une formidable clameur monte, elle monte sans arrêt. Unité, unité d'action. Applaudissements. reprenant un terme venu des tranchées, un responsable ouvrier du PC affirma « c'était vraiment la fraternisation ». Les deux cortèges ouvriers s'unissaient par-dessus la tête des dirigeants réformistes et staliniens. Dans l'atmosphère de division et d'impuissance qui prédominait, c'était un bouleversement pour bien des gens, au-delà des participants. Dans les mois qui suivirent, les croix de feu inaugurèrent des rassemblements motorisés de plusieurs milliers d'adhérents, concentrés un jour donné dans une région où nul ne les attendait. Mais le 12 février avait laissé aux travailleurs une sensation de force, l'espoir que les forces ouvrières étaient en train de se regrouper pour la contre-offensive. L'assurance et la combativité d'une partie des travailleurs grandissaient. Or, si une partie des jeunesses socialistes était favorable à l'unité d'action et sympathisait avec les idées révolutionnaires, l'appareil de la SFIO restait profondément électoraliste et réformiste, hostile au Parti communiste. Ce fut la direction du Parti communiste qui, sous l'impulsion de l'Internationale communiste, procéda à un tournant à 180 degrés. Mais je vous propose que nous en parlions après la pause.